Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et dans cet épisode, je vais vous raconter le dossier qui agite les relations franco-irlandaises depuis bientôt 25 ans, celui de l'assassinat de Sophie Toscan du Plantier. Le 20 décembre 1996, cette productrice parisienne, âgée de 39 ans, se rend dans la maison qu'elle a achetée près de Scull, un petit village de la campagne irlandaise. Dans ce paysage mélancolique, battu par les vents, Sophie Toscan du Plantier se sent bien. Elle y est cette fois venue toute seule, mais rien d'inquiétant pour l'épouse du célèbre producteur de cinéma français, Daniel Toscan du Plantier. Toujours enthousiaste, des projets artistiques plein la tête. Sa maison est isolée, entourée de champs. C'est là, le long d'un chemin, en plein milieu d'un amas de ronces, que ses voisins découvrent son corps 3 jours après son arrivée, le 23 décembre 1996. Sophie Toscan du Plantier est en tenue de nuit. Le visage est méconnaissable. Elle a été violemment battue, à mort. La Garda, la police irlandaise, se rend sur place. Une enquête est ouverte. À Paris, sa famille prépare Noël quand la nouvelle tombe. Sophie Toscan du Plantier a été assassinée.
C'était une femme joyeuse, solaire, avec du caractère, quelqu'un qui était aussi très avenant, quelqu'un qui s'intéressait aux autres, qui avait beaucoup de curiosité pour les autres et qui était quelqu'un à connaître. Voilà.
La voix du crime de cet épisode, c'est Frédéric Gazot. Frédéric Gazot, vous êtes le cousin de Sophie Toscan du Plantier et vous avez écrit une série qui résume cette affaire. Bonjour Frédéric Gazot.
Bonjour.
Comment est-ce que vous apprenez la mort de Sophie Toscan du Plantier ?
Alors je l'apprends moi le 24 décembre 1996, en plein réveillon de Noël. Je l'apprends le matin vers 11h et j'ai des amis qui m'envoient leurs condoléances sans me dire qui est mort autour de moi. Donc j'apprends ça comme ça et je me dis mais qui a bien pu mourir ? Et je me précipite dans une cabine téléphonique, j'appelle une amie et on m'annonce que ma cousine est morte à ce jour-là et qu'elle a été assassinée.
Comment vous réagissez? Vous dites, mais au fait, pourquoi? Quand?
Mais quand ça se produit, on est totalement sidéré à ce moment-là. C'est un état de sidération, et on ne comprend pas. On est d'un seul coup totalement dans le vague, on ne sait plus où on est, où on habite. Et quand on vous annonce en plus que votre proche a été assassiné, c'est totalement irréel. Vous nagez dans l'invraisemblable. Sur le moment, vous n'êtes pas encore saisi par la tristesse, mais par un état vraiment de sidération, de perplexité. Et ce dont je me souviens, c'est que je sais qu'à ce moment-là, à cette minute-là, j'ai su que rien ne serait comme avant.
À Scull, cette localité irlandaise un peu perdue, où tout le monde se connaît, c'est la première fois qu'un meurtre a lieu. Il faut dire que l'enquête de la Garda, c'est la police irlandaise, est très difficile. Le corps de Sophie n'a pas été retrouvé tout de suite. Il n'y a aucune trace, a priori, ADN, qui permette d'identifier clairement le suspect. Parlez-nous un petit peu de cette scène de crime qui est un peu confuse. Il y a beaucoup de monde sur les lieux, très vite. Et est-ce qu'on fait un peu n'importe quoi ?
Alors, on retrouve Sophie le lundi, donc 23 décembre, à 10h. C'est la voisine qui, en sortant les poubelles, avec sa voiture, passe à côté de ce qui lui semble être une poupée gonflable. C'est ce qu'elle dira. Elle a cru que c'était une poupée qui était posée sur le bas-côté, près des ronces. Et elle va s'arrêter, elle va revenir, elle va s'apercevoir que c'est le corps d'une femme, qui, dont le pyjama blanc s'est pris en plus dans les ronces et les fils barbelés qui courent à travers le chemin. Elle va prévenir la police, la Garda arrive. Mais effectivement, c'est la première fois qu'il y a un crime dans la région depuis 75 ans.
Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une grande expérience policière en matière d'homicide.
Aucune expérience policière en matière d'homicide. Et d'ailleurs, ce que je vais apprendre, c'est que la plupart des policiers vont sortir de cette histoire totalement traumatisés. Beaucoup pleureront pendant 3 jours après la découverte du corps, ne pourront pas trouver le sommeil parce que c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une chose pareille. C'est une scène absolument sordide. Le corps de Sophie a été battu, elle a été battue à mort, par 3 manières, avec un objet contondant, on pense une hachette, avec une pierre plate, et elle aurait été achevée par un parpaing qu'on aurait jeté sur sa tête. tout l'objet de l'enquête de la Garda à ce moment-là, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette Française qui arrive... Alors, elle n'était pas vraiment connue dans la région parce qu'elle venait sous le nom souvent de Sophie Bognol. Elle tenait à rester discrète sur son identité. Et elle est quelqu'un qui était avenant, comme je l'ai dit au départ, mais qui était aussi quelqu'un d'assez réservé, de discret. C'est quelqu'un qui n'aimait pas trop se mettre en avant. Du coup, effectivement, la police va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Moi, j'étais le petit cousin de Sophie. Elle était l'aînée de notre génération. Je la voyais au moins deux fois par semaine. J'étais babysitter de son fils, Pierre-Louis. Donc je venais régulièrement chez elle. On se voyait vraiment tout le temps. C'était une femme joyeuse, solaire, avec du caractère, quelqu'un qui était aussi très avenant, quelqu'un qui s'intéressait aux autres, qui avait beaucoup de curiosité pour les autres et qui était quelqu'un à connaître. Voilà. Mon dernier souvenir de Sophie, c'est le souvenir de sa voix sur mon répondeur. Elle m'avait appelé, je ne sais pas moi, 2-3 jours avant sa disparition pour me dire qu'elle pensait à moi et qu'elle voulait qu'on se voie, tout ça. Donc j'avais rappelé le samedi matin, samedi 21 décembre, pour lui dire que j'avais vraiment envie de la revoir, et j'apprenais le surlendemain qu'elle avait été assassinée. Je ne sais pas si c'était pour que je l'accompagne en Irlande, mais c'est comme ça que je l'ai interprété par la suite, parce qu'elle avait demandé à beaucoup de monde de l'accompagner. Il faut savoir qu'elle y allait quasiment jamais seule. C'est un endroit où elle partait avec son fils, et le fils de Daniel, qui avait à peu près le même âge, avec des amis, et c'est peut-être la première fois qu'elle y allait seule. C'est assez troublant et je sais surtout que jusqu'au dernier moment, elle a hésité à y aller. C'est-à-dire que la veille, elle rencontre un réalisateur avec qui elle travaille et elle hésite, elle se demande si elle doit y aller ou pas. Il y a le réalisateur qui la retient en lui disant « Écoute, Sophie, il ne faut pas que tu partes, on a un film à faire, il y a du boulot, c'est vraiment pas le moment, tout ça. » Et il la sent vraiment fébrile. Je crois qu'au cours même de cette rencontre, elle aurait pleuré, tout ça. Et elle est, comment dire, très émue et elle part quand même.
Cette installation au bout de cette Irlande aussi sauvage et qui va devenir une scène de crime, c'était le rêve de Sophie Toscan du Plantier.
Il y avait une histoire entre Sophie et l'Irlande qui devait remonter aussi à notre enfance. Nous avons tous passé nos vacances en Lozère, dans l'Aubrac, et je pense qu'effectivement, l'Irlande et la Lozère et l'Aubrac se ressemblent beaucoup. Et je sais qu'en ce qui concerne Sophie, quand elle avait 15 ans, elle est partie faire un voyage scolaire ou dans une famille qu'on en était. Et c'est comme ça qu'elle est tombée amoureuse de l'Irlande. Et c'est vrai que l'Irlande lui ressemblait beaucoup. C'est-à-dire une dame un peu poète, une dame romantique, tourmentée. Avec, voilà, c'était vraiment un joli reflet de son paysage mental. Ce qu'on sait, c'est qu'elle arrive le soir, enfin, dans l'après-midi du 20 décembre, un vendredi. On ne sait pas grand-chose sur la soirée du vendredi au samedi. En revanche, le samedi, on la voit dans la ville à côté du hameau où elle habite, qui s'appelle Skull. On la voit en train de faire des courses. On sait que le lendemain, elle est allée se promener dans un endroit absolument incroyable qui s'appelle Threecastle Head, qui est un site qui est vraiment à la pointe ouest de la baie de Misène, qui est un château fort en ruine avec 3 tours comme ça et qui domine un lac dans lequel se reflète le ciel. C'est un endroit très, très impressionnant, qui appartient en réalité au dessinateur Tommy Ungerer, originaire d'Alsace, de Strasbourg, et qui s'est réfugié là-bas et qui vit dans ce domaine. Et à la sortie de cette visite, elle se précipite chez Tommy Ungerer, elle boit un thé avec lui, et elle raconte à ce moment-là qu'elle a eu une sorte d'angoisse qui l'a saisie, et elle aurait vu comme une forme blanche sur le lac. Comment je sais ça ? C'est en lisant un article de presse qui avait reconstitué les derniers jours de Sophie et qui était signé par un certain Ian Bailey.
Ian Bailey, dont on va reparler évidemment. Alors vous, la famille de Sophie Toscan du Plantier, au début je pense que vous n'envisagez pas une piste locale, vous en êtes même loin. Vous êtes plutôt intrigué par peut-être un homme que Sophie a fréquenté à une époque. Ça vous paraîtrait quelqu'un qui aurait pu la tuer ? Il y avait une relation difficile ?
De notre côté, on s'interroge sur qui a pu faire une chose pareille. Donc, effectivement, il y a toujours une piste de quelqu'un qui pourrait être un rôdeur, qui passerait par là pour, et que les choses auraient mal tourné à ce moment-là. Mais, or, l'endroit est tellement isolé, tellement perdu. Vous êtes à 10 minutes de la première route nationale. C'est une impasse quand vous allez à Tormore. Il y a 3 maisons, dont une qui est toujours vide, celle du voisin, et la maison de Sophie. Donc, il ne peut pas y avoir de rôdeur qui passe par là un soir de décembre. On a aussi d'autres idées, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas plutôt un quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir ? Et effectivement, on pense éventuellement à l'ancien amant, puisque c'est la seule personne dont Sophie avait un peu peur. Quand on dit l'amant, c'est plus compliqué que ça. Ça a été une séparation entre Daniel Toscan du Plantier, donc le mari de Sophie, et Sophie. Et elle a vécu pendant un an avec un autre homme. et la séparation a été difficile. Et lui a été, comment dire, s'est montré un peu menaçant. Mais bon, c'est une histoire qui a été très vite mise de côté, puisqu'il avait un alibi très fort. Je crois qu'il avait signé ce jour-là un reçu auprès d'un opérateur France Télécom. Donc il n'y avait aucune raison d'être en Irlande au même moment. Et ça a été très vite écarté, voilà.
Vous évoquez Daniel Toscan du Plantier, immense personnalité du cinéma, producteur en vue. C'est lui qu'on voit la plupart du temps au Festival de Cannes. Et pourtant, il ne va pas échapper à la suspicion de Daniel Toscan du Plantier. Il y a des projecteurs qui vont se braquer sur lui. On va dire, après tout, le mari, il n'est peut-être pas si clair que ça.
Alors, c'est ce qui s'est passé en Irlande, ça, essentiellement. C'est-à-dire qu'en France, on n'a jamais vraiment évoqué la piste de Daniel comme étant un tueur potentiel. C'est-à-dire qu'en Irlande, il y a eu beaucoup de papiers là-dessus. En France, ça n'a pas été le cas, et ça n'a jamais non plus été le cas dans la famille. Personne n'a jamais su soupçonner un seul instant Daniel d'avoir pu commettre une chose pareille. On connaissait très bien Daniel, et Daniel était quelqu'un d'extrêmement sensible. On ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'il ait pu être violent avec Sophie.
Si je vous dis ça, c'est qu'on va lui reprocher de ne pas être allé reconnaître le corps. Le mari aurait dû aller en Irlande, il ne s'y est pas rendu. Il dit qu'il était beaucoup trop effondré pour ça.
Ça a apporté le doute. Alors, les gens qui ont vu Daniel juste après la mort de Sophie l'ont décrit comme totalement incapable de se déplacer. Il a été vraiment effondré. Il était dans son manoir dans le sud-ouest de la France, en Bax. Il était totalement incapable de faire quoi que ce soit. Donc, c'est la famille de Sophie, son frère, ses parents et sa tante qui vont se rendre en Irlande, qui vont aller reconnaître le corps. Et effectivement, la non-venue de Daniel en Irlande va nourrir beaucoup de spéculations, beaucoup de suspicions du côté irlandais. Mais est-ce que c'est la seule raison pour laquelle Daniel a été soupçonné? Je ne pense pas. Le refus de Daniel pendant quelques années de ne pas répondre aux policiers irlandais a nourri pas mal de spéculations. Et puis le fait aussi que peut-être un an et demi après la mort de Sophie, il soit remarié avec une autre femme. Donc ça, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Daniel a été vu comme un suspect. Mais bon, ça a été surtout une piste qui a été mise en avant par celui qui deviendra le principal suspect dans l'affaire.
Ce troisième suspect et ce nom dont on parle depuis le début dans cette histoire, c'est évidemment le journaliste Ian Bailey. Il est très rapidement sur les lieux du crime, il devient même le spécialiste local de l'affaire. C'est lui qui raconte cette histoire et il possède des détails que personne ne connaît presque. Et du coup, les indices vont un petit peu s'accumuler parce qu'il s'est tellement mis en valeur et en vedette finalement qu'on ne voit que lui dans cette histoire.
Alors oui, Bailey très vite va s'imposer comme le journaliste local qui est le plus au courant du meurtre et qui va aussi être celui qui va servir de correspondant local pour les autres journaux. Le 26 décembre, donc trois jours après le meurtre, des policiers vont le repérer dans la petite ville de Skull, donc qui est à côté de la maison où habite Sophie, avec des plaies, des écorchures aux bras, qui sont les mêmes que celles qu'on a retrouvées sur le corps de Sophie. Et il a aussi une plaie, une écorche, pardon, importante au front. Et c'est ça qui va, dans un premier temps, alerter les policiers sur son cas. Donc ils veulent l'interroger. Ce qui va se passer aussi, c'est un autre témoin important, qui va rejouer un rôle capital dans cette affaire, qui s'appelle Marie Farrell, qui est une commerçante à Skull, a vu Sophie le samedi, en train de faire ses courses, avec un homme qui la suivait et qui correspond au portrait d'Ian Bailey.
Ce manteau, etc., qu'elle décrit.
Exactement. Elle n'est pas non plus la seule à l'avoir vu Sophie dans la rue avec Bailey, il y a un autre témoin qui l'aurait vu effectivement aussi au supermarché ensemble. Et c'est ça qui va orienter très vite les policiers sur la piste de ce journaliste.
Qu'est-ce qu'il dit sur les griffures, ces blessures qu'il porte, que vous avez décrites?
Alors lui, il va prétendre que ces griffures, qui sont donc assez profondes, ont été faites parce qu'il était en train de couper des sapins. Et en ce qui concerne sa blessure au front, il prétend que ce serait une des dindes qu'il aurait tuée aussi pour Noël, qui aurait causé cette griffure. Quand il sera inculpé, quand il sera soupçonné, il y aura des experts, il y aura des reconstitutions pour savoir si on peut se faire ce genre de griffure avec des sapins, avec des épines de sapin. Or, les griffures qu'on peut retrouver sur le corps de Sophie sont des écorchures extrêmement profondes, causées sans doute par les ronces, avec des pointes qui pouvaient mesurer jusqu'à 2 cm. L'autre chose qui est importante, c'est que la veille du meurtre, Bailey est allé boire un verre avec sa compagne Jules Thomas dans les pubs du coin, qui s'appelle le Gailey. Comme à son habitude, Bailey aime bien déclamer des poèmes ou jouer du tambourin dans le pub. Et là, il y a 8 personnes qui ont vu Bailey en train de jouer de son tambourin, et il a retroussé ses manches de chemise, il n'avait pas de blessure. C'est donc le dimanche soir, Sophie meurt entre dans la nuit du dimanche au lundi.
Donc à supposer d'aller tronçonner un sapin et de tuer des dindes en pleine nuit.
C'est impossible.
C'est impossible.
C'est pas une personne qui a vu ça, c'est 8 témoins différents qui ont bien vu les bras de Bailey, puisque lui s'est mis sur la scène et a retroussé ses manches pour jouer du tambourin. Il n'avait pas de griffure ni d'écorchure ce soir-là. Parce que les gens disent souvent que dans cette affaire, il n'y a pas de preuves matérielles, qu'il n'y a que un faisceau de présomption. Or, là, vous avez une preuve matérielle qui est avérée par 8 témoins qui ont vu. L'institution judiciaire irlandaise n'en a jamais tenu compte.
Mais quel serait son mobile ? Pourquoi aurait-il tué Sophie Toscan du Plantier ?
C'est la grande interrogation qui reste aujourd'hui vraiment une inconnue. On peut toujours se perdre en conjecture, penser qu'il aurait fait ça pour la célébrité, peut-être qu'il était attiré par Sophie, qu'il a pensé qu'il aurait une chance, qu'il s'est rendu chez elle en pleine nuit en espérant arriver à ses fins, elle se serait débattue et les choses auraient dégénéré. Il y a plein d'hypothèses. Alors, il y a une autre hypothèse qui est plus ésotérique, plus étrange, c'est que la nuit où Sophie est morte est une nuit de pleine lune. Ce qu'on sait, c'est que Bailey a un drôle de rapport avec la lune. Et que d'autres témoins ont raconté que les nuits de pleine lune, il rôdait dans la lande et que souvent il allait près des maisons de jeunes femmes qui s'étaient isolées pour hurler comme un loup.
Il dira que c'est faux, évidemment. Il démentira.
Démentira ça, mais c'est intéressant. C'est cet aspect-là. Ce n'est pas quelque chose que les policiers ont pris à la légère. Quand vous parlez avec Damod Dwyer, le commissaire qui est en charge de cette affaire, il vous dit que le problème de Bailey, c'est qu'il y a deux choses qui le rendent cinglé. C'est la pleine lune, c'est un lunatique. Et la deuxième chose, c'est le whisky, ou bien un autre alcool qu'on appelle moonshine.
La lueur de la lune.
C'est l'acadien.
Et la pleine lune plus le whisky.
Plus Sophie, ça fait beaucoup.
Plus Sophie, on peut imaginer effectivement le pire.
Il le dira auprès de pas mal de témoins qu'il a une sorte de, comment dire, de rapport spécial à la lune, qu'il communie avec elle. Notamment un poète qui s'appelle John Montagu, qui va écrire un texte absolument remarquable sur cette affaire qui s'appelle Le diable des collines, dans le New Yorker. Qui a bien connu Bailey, puisque Bailey était son jardinier, et qui va faire un portrait très précis, très fin du caractère de Bailey. Et il faut comprendre que Bailey donc, est journaliste, mais que son ambition quand il arrive à West Cork, dans cette terre un peu étrange, où il y a beaucoup de marginaux, beaucoup de communautés New Age, beaucoup de hippies, c'est de devenir un poète. Notamment un poète gaélique, celtique, je ne sais pas comment trouver le bon terme. Mais dans cette communauté, il y a un livre, qui est un livre de référence, qu'on appelle La déesse blanche, de John Graves, où on raconte que pour être un bon poète, il faut pouvoir être en communion avec cette déesse blanche qui est aussi la déesse de la lune. Donc est-ce qu'il y aurait là-dedans une clé pour comprendre les raisons qui ont poussé Bailey à tuer ? J'en sais rien.
Pourquoi pas, ça n'est pas à exclure. Est-ce que Bailey n'a-t-il pas essayé de contacter Sophie Toscan du Plantier pour lui présenter ses poèmes ou essayer de l'interviewer ? Est-ce qu'il connaît Sophie ?
Bailey dit qu'il ne la connaît pas, qu'il l'aurait simplement rencontrée une seule fois par l'entremise, par le biais de son voisin, le voisin de Sophie qui s'appelle Alfie Lyons, quand il jardinait chez lui. Et donc, ils auraient été présentés à ce moment-là, mais c'était vraiment, les choses en seraient restées là. Nous, on pense que ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir une chose, c'est que oui, à propos de Bailey, c'est quelqu'un qui vit pendant longtemps de petits travaux, de jardinage, il travaille dans une usine de poissons, il vend des matelas, enfin, il fait plein de petits travaux, mais il n'a jamais renoncé à ses ambitions littéraires et notamment à ses ambitions artistiques. Et il passe son temps à graviter auprès de toutes les personnalités qui vivent dans la région. Il faut savoir que West Cork, donc, c'est un endroit où il y a d'abord une communauté rurale très forte qui est là depuis toujours. Il y a aussi toutes ces communautés hippies qui arrivent. Et dans les années 90, il y a aussi toute une intelligentsia culturelle qui s'installe là-bas. Et Bailey essaye par tous les moyens de se faire, comment dire, connaître auprès de ces gens.
Et de briller.
De briller, parce qu'il espère effectivement vendre ses poèmes, tout ça. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il a essayé de se lancer aussi dans l'écriture de documentaires. Il a même obtenu une bourse pour pouvoir faire un documentaire sur cette région. Et ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'il aurait proposé à Sophie, qui était productrice de documentaires, de faire un film sur les violences conjugales.
Alors, Frédéric Gazot, le système judiciaire irlandais est complètement différent du nôtre. On ne va pas le refaire ici aujourd'hui, mais la justice française demande en 2009 une première fois l'extradition de Ian Bailey. Pourquoi cette extradition est-elle refusée ?
Dans cette affaire, il y a deux mystères. D'abord, il y a le mobile. Et le deuxième mystère, c'est effectivement le comportement de la justice irlandaise qui, depuis toujours, n'a jamais voulu poursuivre Bailey. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Irlande, vous avez d'un côté la police qui fait l'enquête, qui, elle, est persuadée et convaincue de la culpabilité de Bailey, mais pour pouvoir traîner quelqu'un devant les tribunaux, il faut que le directeur des poursuites judiciaires, ce qu'on appelle le DPP, engage une procédure. Or, jamais le DPP n'a souhaité suivre les conclusions de la police.
Pour absence de preuves, dit-il.
Alors, pour absence de preuves, oui, pour absence de preuves concluantes. Vous savez, dans le droit anglo-saxon, il y a ce principe que pour inculper quelqu'un, il faut qu'on aille au-delà du doute raisonnable. Or, dans le cas de Sophie, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est que le DPP a toujours, non seulement refusé de poursuivre, mais détricoté, discrédité l'enquête menée par la police.
Enquête aussi du côté français, même si elle n'est pas simple, puisque ce sont les Irlandais qui ont la main sur le terrain. Mais malgré tout, en mai 2019, il y a un procès de Ian Bailey qui va s'ouvrir en France. C'est un procès par contumace, c'est comme ça, en in absentio, c'est-à-dire en l'absence de l'accusé. Donc Ian Bailey, évidemment, n'est pas là, ni ses avocats qui daigneront venir en France, à Paris. Il est condamné par la justice française à 25 ans de prison. Est-ce que ce procès a été utile ? Est-ce qu'il fallait le tenir ?
Ce n'est pas à la famille de dire s'il faut le tenir ou pas. C'est la justice qui a estimé, à un moment donné, la justice française qui a estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments.
Non, mais vous, du côté de la famille, et vous-même, Frédéric Gazot, c'était important pour
vous,
ce
important.
Procès.
Oui, c'était important pour plein de raisons, parce que c'était qu'enfin vous obtenez justice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit que la personne que vous soupçonnez être le meurtrier l'est réellement. Et ça, c'est un moment qui c'est différent d'obtenir ce genre de verdict que d'en rester au niveau des soupçons et au niveau de quelque chose qui est, comment dire, d'hypothèse, de conjecture, tout ça. Parce qu'à un moment donné, c'est acté. Et là, à ce moment-là, je peux vous assurer que vous êtes dans un moment extrêmement grave. Ce n'est pas du tout une joie, ce n'est pas du tout quelque chose de... c'est pas une libération. C'est que c'est un moment très solennel, très pesant, très fort.
Jugé en France et jugé coupable, Ian Bailey, évidemment, il a continué à ferrailler, à s'opposer de toutes ses forces, et il continue encore aujourd'hui à la moindre possibilité d'extradition. Est-ce que, selon vous, il y a une possibilité un jour qu'il soit jugé en sa présence, en France ou en Irlande, ou bien c'est trop tard aujourd'hui ?
Je pense que c'est pas du tout trop tard, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais été innocenté par la justice irlandaise, puisqu'il n'a pas été poursuivi. C'est-à-dire que Bailey reste en Irlande le suspect principal dans la mort de Sophie Sauscon-Duplantier. Il n'a pas été poursuivi, il a été placé deux fois en garde à vue, deux fois relâché, mais la police irlandaise a encore un joker et a encore la possibilité de le placer en garde à vue une troisième fois. Et si, au bout de cette troisième fois, il est inculpé, là, il y aura un procès. En même temps, aujourd'hui, on sait qu'il y a une procédure qui est lancée par l'Europe contre l'Irlande pour manquement à ses devoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une entraide... En principe, il y a une entraide judiciaire entre pays membres de l'Union européenne. Et quand un pays membre de l'Union européenne, comme la France, émet ce qu'on appelle un mandat d'arrêt européen, en principe, le pays doit l'appliquer. Or, l'Irlande refuse de l'appliquer pour des raisons qui ne sont pas liées au fond de l'affaire, mais pour des raisons formelles, pour des raisons de droit, et qui nous semble être en vérité une manière de botter en touche et de ne pas assumer ses responsabilités dans cette histoire.
Frédéric Gazot, on peut quand même être optimiste dans cette affaire, parce qu'aujourd'hui, des années après, il y a des gens qui parlent des langues qui se délient.
Oui, c'est l'une des conséquences de la série, c'est que là, apparemment, ça commence à bouger en Irlande. Il y a un témoin qui s'est manifesté, qui a dit que Jules Thomas, donc la compagne de Bailey, l'aurait contacté en 2001 pour lui dire qu'elle aurait aidé Ian Bailey à nettoyer la scène de crime avec de l'eau de Javel. Donc ça, c'est une piste aujourd'hui qui est... Bon, qui est, j'en parle parce qu'elle est publique, ça a été diffusé dans les journaux irlandais. Et donc il y a plein de choses qui sont en train de bouger, notamment aussi au niveau diplomatique, puisque Macron a été obligé de s'exprimer au cours de sa dernière visite en Irlande pour parler de l'affaire. Donc il a parlé de l'affaire, il lui mise sur une bonne coopération entre les deux systèmes judiciaires, mais ça veut bien dire que, à mon avis, maintenant le gouvernement gardera un œil sur ce dossier, voilà.
Alors vous êtes évidemment convaincu, on l'a bien compris, de la culpabilité de Ian Bailey. Un petit mot tout simple, vous l'avez rencontré en Irlande, Ian Bailey ?
Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet de film, quand j'ai commencé à l'écrire, je suis parti en Irlande. Je n'étais pas allé en Irlande à l'époque où Sophie y allait. Et donc j'y suis allé, et je suis allé à Skull. Et comme tous les samedis matins, il y a ce qu'on appelle un marché hippie. Et Bailey s'y rend et va vendre ses légumes, ses pizzas, tout ça. Donc j'ai vu Bailey à ce moment-là, oui, effectivement. Je ne lui ai pas parlé, j'étais assez loin. Mais de toute façon, même quand vous vous promenez dans Skull, c'est très difficile de manquer Bailey, puisqu'il c'est le seul à mesurer 2 mètres au milieu de la rue, et il est tout le temps là, quoi. C'est quelque chose de... il est omniprésent.
Pourquoi vous avez décidé de faire cette mini-série sur le meurtre de Sophie Toscan du Plantier ? Il fallait écrire votre vérité, c'est ça ?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, ça a commencé par quand je commence à travailler dessus. Nous sommes en 2016-2017. C'est une histoire qui est un peu oubliée en France. Alors, en Irlande, effectivement, c'est comme l'affaire Grégory. C'est quelque chose qui est récurrent. Il y a toujours de nouveaux éléments qui ressortent. Et c'est la plus importante affaire criminelle de l'histoire du pays. Mais en France, on l'oubliait. Et nous, l'objectif de la famille, c'était de faire en sorte de parler de cette histoire. Et on avait essayé à plusieurs reprises de convaincre des chaînes de télévision françaises de faire quelque chose là-dessus. Ça ne marchait pas, du moins dans le cadre d'une émission documentaire. Et moi, je me suis dit, je vais tenter le coup. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu l'écrire, il a fallu trouver un diffuseur, il a fallu trouver une boîte de production. Et heureusement que j'ai pu travailler avec cette société anglaise pour faire ce film.
La famille de Sophie Toscan du Plantier, vous l'avez évoqué et vous en faites partie, Frédéric Gazot, bien évidemment, qui n'a jamais désarmé. Elle continue aujourd'hui à entretenir cette mémoire.
Oui, la famille a réussi à se mobiliser et n'a jamais abandonné Sophie. En 2007, on a décidé de monter une association qui s'appelle ASOF, pour pouvoir faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'on voulait absolument qu'il y ait un sursaut médiatique d'abord, puis un sursaut judiciaire pour qu'on n'oublie pas Sophie. Donc ça a été monté par l'oncle de Sophie, Jean-Pierre Gazot, qui est accessoirement mon père aussi, par mon oncle Michel, par ma cousine Marie-Claire, par notre cousin Francis Lefebvre, par des amis de la famille, Jean-Antoine Bloch, bon, plein de gens qui se sont mobilisés pendant maintenant quasiment 13 ans, qui se réunissent tous les mois pour évoquer la procédure, pour parler de nouvelles pistes, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est une famille qui a refait l'enquête, qui a eu accès au dossier, qui s'est plongé dans le dossier. C'est un dossier quand même qui fait 15 000 pages, qui l'a classé, qui a essayé de trouver de nouvelles pistes, qui est allé en Irlande pour pouvoir interroger des témoins, qui a essayé d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et quand la SOF a été créée, on a décidé de repartir depuis zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu se dire, bon, on a un coupable, enfin un suspect, on va aller dans cette direction. On a essayé de vérifier toutes les pistes possibles. Mais à chaque fois que vous plongez dans le dossier, tous les gens qui ont travaillé sur ce dossier, qui connaissent bien ce dossier, c'est-à-dire aussi les journalistes, les écrivains en Angleterre, on arrive toujours à la même conclusion. Il n'y a qu'un seul suspect, qu'un meurtrier possible, c'est Ben Bailey.
Vous venez d'écouter Les Voix du Crime sur l'affaire Sophie Toscan du Plantier. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode en nous laissant un commentaire.